Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 9e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec saint Thomas d'Aquin et la question « Être, est-ce aimer Dieu plus que soi-même ?» Je ne serai pas long pour introduire notre sujet parce que nous avons à lire l'un des textes les plus décisifs de Thomas d'Aquin, qui transforme radicalement notre compréhension de l'être et de toute la métaphysique. Entrons donc dans le vif du sujet en écoutant ce texte de la Somme de théologie qui parle de l'ange, première créature, et à partir de lui, tous les êtres créés.
L'ange, par amour naturel, aime-t-il Dieu plus que lui-même ? On voit d'abord que non. C'est à cause de soi-même que quelqu'un aime naturellement un autre. Ce que chacun en fait, c'est comme son bien qu'il l'aime. L'ange n'aime donc pas Dieu naturellement plus que lui-même. Ensuite, toute nature fait retour sur elle-même, car il est de fait qu'un agent tend par son action à la conservation de lui-même. Or, la nature ne ferait pas ainsi retour sur soi si elle tendait davantage vers un autre que vers elle-même. L'ange n'aime donc pas naturellement Dieu plus que lui-même. C'est le propre de la charité de nous faire aimer Dieu plus que nous-mêmes. Mais la dilection de la charité n'est pas naturelle à l'ange, car elle est diffusée dans les cœurs par le Saint-Esprit qui leur a été donné, selon saint Augustin. Enfin, l'amour naturel demeure toujours tant que demeure la nature d'un être. Mais le fait d'aimer Dieu plus que soi disparaît chez l'homme et chez l'ange lorsqu'il pèche. En sens contraire, tous les principes moraux de la loi appartiennent à la loi naturelle. Or, le précepte d'aimer Dieu plus que soi-même est un précepte moral de la loi, il relève donc de la loi naturelle. Et par conséquent, l'ange peut aimer Dieu d'un amour naturel plus que lui-même. Je réponds donc en disant que l'inclination des êtres sans raison nous permet de découvrir quelle est l'inclinaison naturelle des natures intellectuelles douées de volonté. Dans les réalités naturelles, toute chose qui, par nature, en tout ce qu'elle est, relève d'une autre, se trouve d'abord inclinée vers cette autre plus que vers elle-même. Et cela se manifeste dans la manière même dont une chose est poussée naturellement à agir, ce qui dénote en elle une attitude foncière, dit Aristote. Nous voyons en effet que naturellement, la partie s'expose à la conservation du tout, la main s'expose au coup, sans délibération, pour préserver le corps. Ceci posé, il faut remarquer que le bien universel est Dieu lui-même. Et ce bien englobe l'ange, l'homme et toute créature, car toute créature, du simple point de vue naturel, est de Dieu en tout ce qu'elle est. Il suit de là que l'ange et l'homme aiment naturellement Dieu en priorité et plus qu'eux-mêmes. Donc, si l'homme ou l'ange s'aimaient naturellement eux-mêmes plus que Dieu, il s'ensuivrait qu'un tel amour naturel serait mauvais et qu'il ne serait pas perfectionné par la charité, mais détruit par la charité même. Ainsi, quand on dit que l'ange aime Dieu parce que Dieu est son bien, si l'on veut dire que dans cet amour, son bien propre joue le rôle de fin, cela est faux. Ce n'est pas en effet en vue de son propre bien. C'est en vue de Dieu même qu'il aime naturellement Dieu. Si l'on veut parler au contraire de ce qui le provoque à aimer, cela est vrai. Il ne saurait en effet être naturel à quiconque d'aimer Dieu, sinon pour cette raison que chacun dépend de ce bien que Dieu est. Ensuite, la nature fait retour sur elle-même, non seulement sous le rapport de ce qui lui est individuel, mais plus encore sous le rapport de ce qui lui est commun avec d'autres natures. Toute chose, en effet, n'incline pas seulement à la conservation de son être individuel, mais aussi au salut de son espèce. À plus forte raison, possède-t-elle une inclination naturelle vers ce qui est purement et simplement le bien universel. Ensuite, Dieu, en tant que bien universel, duquel dépend tout bien naturel, est aimé naturellement par chaque être, en tant qu'il est le bien béatifiant, objet propre de la béatitude surnaturelle, il est aimé surnaturellement de charité. Enfin, Dieu, en tant que bien commun, est naturellement aimé de tous les êtres. Et quiconque le voit dans son essence, dans la vision béatifique, ne peut pas ne pas l'aimer. Mais ceux qui ne le voient pas dans son essence le connaissent par des effets particuliers dont certains peuvent contrarier leur volonté. En ce sens, on dit qu'ils ont de la haine pour Dieu. Il reste néanmoins qu'à titre de bien commun de tous les êtres, chacun de ceux-ci, même pécheur, aime Dieu naturellement plus que lui-même.
Fabrice Hadjadj, l'ange peut aimer Dieu d'un amour naturel plus que lui-même. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors, on est dans ce qu'on pourrait appeler, chez Thomas d'Aquin, le traité de la création. Avec l'ange, bien sûr, le traité de la première créature. Dieu crée les anges avant de créer le monde matériel. Et on pourrait penser que c'est souvent comme ça qu'on envisage l'angélologie, la science des anges, comme quelque chose de dévotionnel, où il s'agit de penser à son ange gardien, d'entrer parfois dans des sortes d'ésotérismes, de trouver un nom à son ange gardien qui finirait en L pour que ça ressemble au nom des archanges que nous connaissons, vous voyez, Raphaël, Gabriel et Michel, etc. Mais en réalité, pour Thomas d'Aquin et en théologie, penser l'ange, c'est toujours penser la première créature et une créature qui est d'une certaine façon à l'état de pur esprit, donc la créature aussi la plus simple, même si c'est une créature composée d'actes et de puissance, où l'on peut voir des phénomènes tels qu'on ne peut pas les voir ailleurs. Et donc, par exemple, on le verra par la suite, qu'est-ce que c'est que péché quand on est un pur esprit ? Comment est-ce que c'est possible ? Alors qu'il n'y a pas d'erreur, alors qu'il n'y a pas de faiblesse de la volonté. Penser ici, et c'est ça qui est très intéressant dans ce texte, ce qu'on pourrait appeler un amour naturel de Dieu. Alors, ce qu'il appelle un amour naturel, ce n'est pas un amour conscient, choisi. C'est un amour qui serait constitutif de l'être même. Et c'est pour ça qu'il peut, alors qu'il parle de l'ange dans ce texte, il va parler de l'homme et il va parler de toute créature, y compris un caillou. Et la question, c'est de poser, donc déjà on est dans un contexte où le mot « amour » n'a pas le sens, on pourrait dire, psychologique que nous lui donnons, ça a un sens vraiment ontologique. Dans tout être, il y a un appétit, une tendance vers justement, par exemple, à se conserver soi-même, mais d'abord une tendance à s'inscrire dans un ensemble, l'univers, et puis une tendance à aller vers Dieu, on en avait parlé, cette ressemblance divine que tout être vise lorsqu'il accomplit finalement sa nature. Et donc là, la question qui est posée, qui est une question stupéfiante, c'est de savoir si l'ange aime de cet amour naturel Dieu plus que lui-même. Donc c'est une question qui ne concerne pas l'ange, mais tout être. C'est pour ça que la question que vous formuliez au début, c'est la question, est-ce que être, c'est non pas d'abord se chercher soi-même, non pas d'abord se conserver dans son être, persévérer dans son être, ce que disait Spinoza, vous voyez, être, c'est d'abord une structure égoïste, une structure où on est soi. Et même si je veux un bien, c'est toujours mon bien. C'est d'ailleurs ce que Thomas d'Aquin envisage ici. Tout est par rapport à moi. Comment je pourrais aimer si je ne suis pas d'abord ? Donc, il faut que je sois, et c'est d'abord l'amour de moi qui prime, et c'est moi que j'aime par-dessus tout et plus que tout, que je vise. Et ça n'est que secondairement que je vais, et d'ailleurs ça devient optionnel, puisque ce n'est pas constitutif, que je vais me tourner vers Dieu, éventuellement aimer Dieu ou pas. Or, Thomas d'Aquin nous dit qu'un être créé a d'abord en lui, en tant qu'être créé, un amour de son créateur et aime son créateur structurellement, plus que lui-même. Donc voilà, c'est un amour qui est constitutif, non pas un amour psychologique, sentimental, puisque c'est dans tout être. Voilà, c'est ça qui est en jeu ici.
Fabrice Hadjadj, ce que va montrer Thomas d'Aquin, c'est que donc l'essence de notre nature, plus qu'une inclination, plus qu'une inclination sensible, tend vers Dieu. Et pourtant, naturellement, nous n'en avons pas immédiatement le ressenti, enfin, nous n'en percevons pas forcément cette inclination. Et de plus, il va dire que la connaissance, pour le coup, de Dieu, elle n'est pas immédiate, elle est médiate par les créatures ou par les signes. Et donc, c'est comme s'il y avait une opposition. Alors là, je m'adresse davantage pour les anges ou pour l'homme, pour les créatures
douées
de conscience et de raison. Comment est-ce qu'on peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas forcément ?
Oui. Bah, en fait, d'abord, on est dans un amour qui est au plan de l'être, et d'ailleurs qui laisse entendre déjà... là, on est au cœur d'un problème métaphysique majeur. Est-ce que le bien est au-delà de l'être ? C'est un grand thème hein, de Platon, de Lévinas, mais aussi de Jean-Luc Marion. Et on voit que, par rapport à l'être créé, il semblerait que l'être créé a en lui un amour qui va au-delà de son être, en-delà de l'être créé. Donc on pourrait dire que l'amour est plus fondamental que l'être, si on ramène l'être à dans un sens univoque, c'est-à-dire l'ensemble des êtres créés, oui. Donc ça, c'est une question incroyable. L'amour est plus profond que l'être si on s'en réfère à l'être créé. Si on prend l'être en général, c'est-à-dire aussi incréé, à ce moment-là, il faudra relativiser ce jugement. Alors, bien sûr que c'est un amour ici constitutif qui repose sur un principe très simple. Alors, l'image qu'on voit ici, c'est que il prend l'image du corps, hein, qui n'est pas exactement la même, parce que ici, c'est le rapport de la partie à un tout, et la partie est prête à se sacrifier pour le tout. La main, dit-il, s'expose au coup, et c'est même pas en réfléchissant, c'est spontané. Quand quelqu'un va me frapper, je vais protéger mon visage avec ma main. Donc c'est curieux, en fait, j'expose ma main, ou plutôt ma main s'expose d'elle-même. Ça veut dire que ma main préfère mon visage ou préfère d'autres parties de mon corps d'une certaine façon qu'elle-même. Et il dit, eh bien, dans tout être, c'est comme ça, non pas en sens que chacun serait une partie d'un tout qui serait Dieu, ça c'est pas, Dieu n'est pas un tout dont nous serions les parties si on serait dans le panthéisme, mais plutôt en termes de source de l'être par rapport à mon être créé. C'est-à-dire, je suis une créature, et donc, pour mon être, mon existence, je la reçois. Et donc, la condition même d'être soi, d'être, c'est justement mon créateur. Donc, de la même façon qu'on pourrait dire qu'un ruisseau aime sa source plus que lui-même, sans quoi il ne serait pas ruisseau, de la même façon, on peut dire que toute créature aime son créateur plus qu'elle-même. Et voilà, donc ici, on est dans une théologie de la création, et la théologie de la création marque donc une primauté de l'amour du créateur sur l'amour que la créature a sur soi. Mais attention, ça ne veut pas dire, et c'est là où il faut être très précis, ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Ça ne veut pas dire aimer Dieu plus que soi, ça veut dire j'aime Dieu et je me méprise moi-même. Non, c'est que je n'ai c'est dans l'amour de Dieu que j'ai du prix même à mes yeux. Donc voilà, c'est pas du tout. Alors, ce qui est très important ici, dans ce que vous mettez en évidence, après cela dit, c'est qu'effectivement, le problème se joue à deux niveaux. Qu'est-ce qui se change entre cet amour naturel, cet amour structurel de l'être et le passage à la conscience ? Et de l'autre côté aussi, bien sûr, on en parlera sans doute après, qu'est-ce qui change entre l'aspect naturel et l'amour surnaturel de charité ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le passage à la conscience ? Ça veut dire que lorsque je me mets à aimer là volontairement, eh bien, ma volonté fait rejaillir dans un niveau de réflexivité, de conscience, ce qui est déjà dans les profondeurs de l'être. C'est pour ça que l'amour de Dieu est produit de l'unité en soi. Parce que si c'était un amour qui allait à l'encontre de ce que nous sommes naturellement et des profondeurs de l'être, eh bien, en fait, je me forcerais, je m'arracherais à... Mais ce qui fait que cet amour, quand tout d'un coup un être conscient se met volontairement et en connaissance de cause à aimer Dieu plus que soi, en fait, loin d'aller à l'encontre de son être, j'aime Dieu plus que moi, ça veut dire que je vais contre moi, que je me diminue par rapport à Dieu. Enfin, bon, on ne peut pas se diminuer par rapport à Dieu, il est forcément transcendant et au-dessus, ça n'a aucun sens. Donc c'est objectif qu'on l'aime plus, ce n'est pas un degré... Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que ça rejoint les profondeurs de ma nature même, de ce qui me constitue dans mon fond le plus profond. D'ailleurs, mon fond, métaphysique, mon fond de, d'être créé, de créature. Et donc, quand cela vient fleurir dans notre volonté, notre connaissance, forcément, en nous, vous voyez, c'est comme si on était remis dans l'axe, comme si, vous voyez, tout notre être trouvait cette unité à partir de ses profondeurs jusqu'à sa fine pointe.
Fabrice Hadjadj, dans la première épître aux Romains, dans l'épître aux Romains au premier chapitre, saint Paul parle de la connaissance naturelle que les hommes devaient à Dieu et l'amour naturel qu'ils devaient à Dieu. Et ils s'en sont détournés par idolâtrie et c'est là leur faute principale. Est-ce que on pourrait, à la lumière de ce texte, comprendre que la faute première de l'homme, c'est l'idolâtrie, mais non seulement en ce que ça le détourne de Dieu, mais parce que justement ça le réduit lui-même, puisqu'en se détournant de Dieu, il s'éloigne de lui-même. Et donc, on ne peut pas s'aimer en n'aimant pas Dieu. Donc, si on se détourne de Dieu, on diminue forcément son être même.
Oui. Alors, il y a deux choses. Il faut faire attention ici, lorsqu'on parle d'amour naturel, c'est dans un amour au sens... c'est naturel au sens le plus rudimentaire du terme, c'est-à-dire constitutif d'une nature, d'un être, d'un type d'être, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire l'amour naturel qu'on aurait comme amour conscient naturel. Donc là, quand on parle de la connaissance naturelle, on voudrait dire bon, peut-être la connaissance philosophique, la connaissance spontanée de la raison, à supposer même qu'elle puisse exister en dehors de la grâce. Mais ce qui est certain dans ce que vous affirmez, c'est qu'on ne peut pas séparer, bien sûr, l'amour de Dieu et l'amour de soi. Et que Dieu est mon créateur, je reçois l'être de lui, donc plus je l'aime, plus je suis constitué dans mon être. Alors bien sûr qu'il y aura certains mystiques qui vont évoquer un vocabulaire de la, non seulement de l'abnégation, mais qui va aller jusqu'à la négation. Voilà, je veux être anéanti en Dieu, je veux être... Mais en fait, ça veut dire se tourner vers la source qui ne cesse de nous créer, de nous recréer dans la grâce. Et donc forcément, c'est être encore plus soi-même. Et plus je me tourne vers Dieu, plus je deviens moi-même. Alors, ça ne veut pas dire que je me tourne vers Dieu pour devenir moi-même, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que c'est ça qui est très, très... C'est une structure très, très mystérieuse. Quand un homme... Voilà, on pourrait voir ça à partir de la sexuation. Un homme se tourne vers la femme et c'est comme ça qu'il devient viril. C'est pas en se regardant lui-même, en gonflant ses biceps, etc., ce qui est une attitude, je dirais, narcissique, et qu'on pourrait trouver aussi, et peut-être même encore plus honorée dans le monde homosexuel. Et je me regarde moi-même, je veux ressembler à un homme, il suffit de voir, c'est les couvertures de certains magazines de ce monde-là pour voir que c'est bien ça, voilà, les faibles, le bon. Je suis vraiment masculin, viril, parce que c'est un nom de relation, qu'en étant tourné vers l'autre. Et c'est d'abord la femme que je regarde, et c'est d'abord la femme que... Voilà, et c'est en la servant que je deviens chevalier servant. Donc c'est pas en étant tourné vers moi, et je me dis pas, tiens, je me sers de cette femme pour devenir un chevalier servant. Bon. Bien, dans le rapport de la créature et du créateur, voilà, il y a une analogie. Je me tourne vers le créateur, je suis constitué comme créature à partir de cette relation, mais c'est pas comme si je me visais moi-même, voilà. Et ça, c'est un des grands paradoxes, si vous voulez, du fond d'un être qui est un être qui est toujours lié à d'autres êtres et qui est un être de relation, c'est que il se réalise en se tournant vers l'autre, mais ce qu'il vise, c'est pas sa réalisation, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les logiques de développement personnel qui contiennent une forme de narcissisme, voilà, comment je vais me réussir moi-même, comment je vais avoir une bonne relation de couple, de telle sorte que je vais pouvoir m'épanouir, de telle sorte... Bah, toutes ces choses-là, en fait, aboutissent à quelque chose qui est un ratatinement, parce que ce qui me dilate, c'est précisément de ne pas être tourné vers moi ou de ne pas avoir pour finalité moi-même, mais d'être ouvert sur l'autre.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, être, est-ce aimer Dieu plus que soi-même ? Fabrice Hadjadj, j'aimerais poser une question par rapport à un terme qu'utilise Thomas d'Aquin quand il dit que l'homme aime naturellement Dieu en priorité. Est-ce que ça veut dire que de l'amour de Dieu découle ensuite l'amour des autres créatures, que on aimerait, la dilection tendrait premièrement vers Dieu ? Et de cet amour descendrait vers les autres êtres aussi ?
Bien sûr. Aimer le Créateur, là encore, on arrive toujours à ce problème d'une conception erronée où on met Dieu comme si c'était une super créature et donc qui serait en concurrence avec les autres créatures. Alors ça, c'est le problème, c'est-à-dire qu'on... Mais quand on se tourne, il y a toute une spiritualité où on dit vous tournez trop vers les créatures, il faut se tourner vers Dieu. Et donc, l'amour de Dieu implique le mépris des créatures. En réalité, ce n'est pas exactement ça. C'est que quand on se tourne vers les créatures en oubliant leur créateur, on finit par les détruire aussi. Parce qu'on ne les voit pas dans ce qu'elles sont. Et ce qu'elles sont, c'est leur créateur qui me le révèle, puisque c'est lui qui les a voulues. Inversement, donc plus je me tourne vers le créateur, plus j'aime ces créatures. De la même façon, plus je me tourne vers un poète ou vers un peintre, plus je vais aimer ses œuvres de poésie ou de peinture. Donc, il n'y a pas à proprement parler de concurrence. Et c'est pour cela que les actes de dévouement, de sacrifice même, qu'il peut y avoir, un sacrifice ordonné, on ne sacrifie pas pour n'importe quoi, enfin, ou plutôt, toute immolation de soi n'est pas nécessairement un sacrifice, mais le fait même de prendre soin d'une chose, jusqu'à s'oublier soi-même, tout ça se fonde sur cet amour de Dieu, parce que je me tourne vers la chose pour elle-même, mais ça veut dire aussi telle que Dieu la voit, telle que Dieu me laisse voir son bien, et à ce moment-là, c'est comme ça que je vais en prendre soin.
Une dernière question, Fabrice Adjage, avant la fin de notre émission. L'augustinien en moi, au début, pourrait être un peu piégé par la terminologie de Thomas d'Aquin, puisque les pélagiens pourraient facilement objecter, oui, mais donc si l'amour est naturel, quel besoin de la grâce ?
Oui, effectivement, aimer Dieu plus que soi-même, c'est naturel. Et vous avez cette affirmation qui est incroyable ici, tous les principes moraux de la loi appartiennent à la loi naturelle. Donc ça veut dire que c'est ce principe qui est fondamental chez Thomas d'Aquin et qui est bien sûr aussi chez Augustin, la grâce ne détruit pas la nature. La charité qui nous fait aimer Dieu plus que nous-mêmes ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est constitutif de notre être, parce que sinon, ce qu'on appelle rédemption, rachat ou perfectionnement ou surélévation serait en fait une destruction de notre nature. Donc ce n'est pas possible. Il faut forcément que la charité soit en accord avec ce qui est la profondeur de notre être, sinon nous ne serions pas à proprement sauvés. C'est bien la nature humaine qui est sauvée. Et puis il y a un autre problème, qui est un problème plus radical encore, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre le Dieu créateur et le Dieu créateur des natures et le Dieu rédempteur, le Dieu donateur de la grâce. Donc il n'y a forcément pas de contradiction en Dieu, sinon on arriverait. Et c'est la tentation aussi, il ne faut pas oublier que même si Augustin critique les pélagiens, il critique d'abord les gnostiques, les manichéens, on serait dans la tentation d'un amour de Dieu qui irait contre le corps, qui irait contre les tendances naturelles. Et donc là, on dirait qu'il y a deux dieux, un dieu créateur de la matière et un dieu créateur. Donc, ce qui se passe, c'est que d'une part, la nature est blessée. Donc même pour que la nature puisse se déployer, il faut la grâce. La grâce a une valeur de guérison. C'est pour ça que là, on retrouve Augustin. Bon. Et la deuxième chose, c'est que quand on dit naturel, on parle de la structure d'un être, mais pas forcément de sa condition telle qu'elle est. C'est-à-dire que, bien sûr, nous sommes naturellement inclinés à aimer Dieu plus que nous-mêmes, mais nous vivons avec cette sorte de brisure à l'intérieur de notre être, qui fait que notre vie consciente est marquée par l'obsession de soi, le mépris des autres, par le manque d'amour et l'oubli de Dieu. Donc, ce qui est dit là, c'est pas de dire c'est par nos propres forces simplement ou c'est par nos propres mérites que nous aimons Dieu plus que nous-mêmes, puisque là il s'agit même pas d'un amour qui relève du mérite, mais de quelque chose qui est naturel. Mais dès qu'on passe au plan conscient, nous avons besoin de cette grâce pour que cette nature soit guérie, d'une part, et aussi pour que tout cela devienne un amour illicite, un amour choisi, un amour volontaire. Et c'est là où on comprend une chose, c'est que non seulement la grâce ne détruit pas la nature, mais la grâce nous fait vraiment être nous-mêmes. C'est ça qui est magnifique. Il n'y a pas d'aliénation. se tourner vers Dieu, souvent on pourrait dire, voilà, c'est des gens, les saints, c'est des êtres qui ressemblent pas à l'humain. Mais non, c'est la réalisation de la nature humaine. La divinisation est une humanisation encore plus parfaite. Et c'est cela, ce qui est sous-tendu, c'est presque la déduction, ce que nous dit Thomas d'Aquin ici, c'est une déduction qui pourrait se faire à partir de cette affirmation que plus on est divinisé, eh bien ça ne détruit pas la nature, là qu'on trouvera les hommes les plus humains, voilà, dans la grâce.
Merci Fabrice.
Merci Galdac.
C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Saint Thomas d'Aquin, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30 et les samedis à 10h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.